Et bonjour à tous. Alors que se poursuit le procès du financement des campagnes électorales du Front National, nous allons nous pencher aujourd'hui sur l'autre affaire qui menace le parti de Marine Le Pen. La justice le soupçonne d'avoir employé des assistants parlementaires européens qui travaillaient en fait essentiellement pour le parti, et parmi eux des proches de la famille Le Pen. C'est ce que vous allez nous expliquer, Élodie Guéguin. Bonjour.
Bonjour Jacques.
Et puis nous recevrons Sofian Fanen. Bonjour également.
Bonjour.
Alors pour le site Les Jours, vous avez publié une enquête sur les SUV, ces grosses voitures qui consomment 10% de plus que les berlines classiques. C'est un non-sens écologique et leurs ventes ont pourtant explosé ces dernières années.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Le Rassemblement National, en l'état, fin août, ne paye pas les salaires. Il est donc en cessation de paiement, il va donc disparaître. On ne peut pas imprimer de tracts, on ne peut pas imprimer d'affiches. Nous demandons à tous les Français attachés à la démocratie de verser, y compris une somme la plus modeste soit-elle. Nous ne pouvons plus faire de politique.
Voilà, ça c'était en juillet 2018 sur CNews. Marine Le Pen en appelle à la générosité des Français. Elle vient d'apprendre que 2 millions d'euros de subventions publiques que devait recevoir son parti sont mis sous séquestre parce qu'on le soupçonne d'avoir affecté des assistants parlementaires européens à d'autres tâches qu'un seul travail pour Bruxelles. Alors avant de voir ce qu'on reproche précisément au FN, qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui le RN, le Rassemblement National, Élodie Guéguin, faut faire un peu d'histoire.
Oui Jacques, parce qu'on ne s'en souvient peut-être pas, mais les Le Pen au Parlement européen, eh bien ça ne date pas d'hier. Jean-Marie Le Pen a passé plus de 30 ans dans les assemblées de Bruxelles et de Strasbourg. En 2014 encore, le journaliste Serge Moati suivait le fondateur du Front National dans les couloirs du Parlement.
Pourquoi vous y allez-vous? Puisque, au fond, ça représente tout ce que vous n'aimez pas.
Justement, pour protester. Mais un Parlement, ça n'est pas uniquement composé de gens qui sont d'accord entre eux. C'est pour exprimer l'opinion des gens qui votent pour moi.
Ouais, donc Jean-Marie Le Pen explique qu'il va au Parlement européen pour le combattre de l'intérieur.
Oui, à cette époque, son fonctionnement n'était pas aussi réglementé qu'il l'est aujourd'hui. Les eurodéputés sont très peu contrôlés et avoir des élus européens, eh bien, c'était très intéressant. C'est ce que nous a raconté Fernand Le Rachinel, le compagnon de route de Jean-Marie Le Pen, qui a siégé à ses côtés à Bruxelles et à Strasbourg.
Avant 1999, les députés profitaient d'un tas d'avantages. Ils se domiciliaient dans leur résidence secondaire, le plus loin possible du Parlement, de façon à avoir des frais de voyage substantiels. Tout était payé en cash, en liquide. Et toutes les semaines, les députés passaient à la caisse, se faisaient payer dans la monnaie de leur choix, tout, voilà.
Ouais, donc c'était très avantageux pour les députés, dit Fernand Le Rachinel, mais ça l'était aussi pour les partis.
Oui, l'Europe, c'était une manne pour beaucoup d'organisations politiques. Ça leur permettait notamment d'embaucher des collaborateurs. Imaginez Jacques, aujourd'hui, un eurodéputé, il dispose, s'il le souhaite, de 24 000 euros par mois pour rémunérer ses assistants. Voilà pourquoi il était si intéressant pour un parti de faire de bons scores aux élections européennes, raconte encore Fernand Le Rachinel.
À chaque élection, en fonction des résultats bons ou moins bons pour chaque parti politique, c'était des moyens supplémentaires ou des moyens en moins pour chaque parti. C'était en fonction des résultats qu'on pouvait embaucher ou pas des collaborateurs. Et tout le monde faisait de la politique, bien avant de s'occuper du Parlement européen. Tout le monde faisait la même chose.
Ouais, tout le monde faisait la même chose et il est vrai que le Front National n'est pas le seul à se voir reprocher d'avoir profité de l'Europe. Alors à ce stade, faut aller un peu plus loin, Élodie. Comment est-ce qu'on fait concrètement quand on est un parti pour profiter, entre guillemets, du Parlement européen?
Eh bien Jacques, si vous donnez un contrat d'assistant européen à un permanent de votre parti politique, alors vous n'avez plus à le salarier. C'est l'eurodéputé qui devient son employeur et c'est l'Europe, donc, qui paye le salaire.
Et qui décidait d'affecter tel ou tel poste de permanent sur un poste d'assistant européen?
Alors bon, on ne peut rien affirmer de définitif sur ce sujet, l'affaire n'a pas été jugée, mais j'ai rencontré plusieurs proches de Jean-Marie Le Pen et eux soutiennent que c'est le fondateur du Front National qui décidait de qui devait employer qui, si on en croit le trésorier historique du FN, Jean-Pierre Revaux.
C'était vrai que c'était Le Pen qui décidait à ce moment-là, ouais, qui serait au Parlement européen, et en conséquence, il demandait aux élus de prendre en charge, par le biais des assistants, un certain nombre de gens. Mais moi, je rentrais pas dans ces tractations, j'en sais pas plus.
Oui, j'en sais pas plus, mais c'est bien dans cette direction que les juges sont en train de creuser.
Oui, ils essayent de définir si les assistants FN travaillaient réellement pour les députés auxquels ils étaient rattachés. Et là, Jacques, ils ont un doute. Ils ont par exemple découvert que Thierry Légier, vous connaissez certainement son visage et sa grande silhouette, hein. Il a été le garde du corps personnel de Jean-Marie Le Pen, puis celui de Marine Le Pen. Eh bien, Thierry Légier, il a été payé pendant longtemps avec l'enveloppe de Fernand Le Rachinel, qu'on a entendu tout à l'heure. Et ça n'est pas tout. Fernand Le Rachinel, il employait aussi la secrétaire particulière de Jean-Marie Le Pen.
Ah, il l'employait comme assistante parlementaire européen. Et comment il justifie ça, lui, Fernand Le Rachinel ?
Eh bien, il ne voit pas où est le problème, hein, car selon lui, ce n'était pas illégal.
Le Pen avait un staff, hein, important. Il y avait un pool d'assistants. Ces gens travaillaient pour le Front National. À moi, personnellement, non. Mais moi, je prenais d'autres assistants qui étaient sur d'autres noms. C'était pas des emplois fictifs.
Ouais, c'était pas des emplois fictifs au sens où ces gens-là effectivement effectuaient un travail. Mais ce travail, c'était pas pour l'Europe, c'était pour le parti.
Alors c'est un peu plus compliqué que ça, Jacques. Hein. Ils pouvaient travailler un peu pour l'Europe et un peu pour le parti. Or, le Parlement européen estime qu'on ne doit pas financer la vie politique française avec des fonds européens. Il estime donc le préjudice à près de 6 millions d'euros. Et en France, une vingtaine de personnes ont été mises en examen, dont Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen.
Ouais, sauf que le Rassemblement National, lui, il estime qu'on lui fait un mauvais procès.
Eh bien oui, écoutez encore Fernand Le Rachinel, qui est lui aussi poursuivi. Pour lui, ce système de pool d'assistants n'a pas fait perdre un centime à l'Europe.
Le Parlement européen, financièrement, n'était pas du tout impacté par cela.
Thierry Légier, le Parlement le paye lorsqu'il est à votre service, 515 453 euros. Vous ne pouvez pas dire que le Parlement n'a pas perdu un centime.
Non! Chaque député a le droit, mettons, deux ou trois personnes. Hein. Bon, alors il y a 10 députés et ça fait 30 personnes. Que les gens travaillent pour le Front National ou sur des rapports précis, ça ne change rien pour le Parlement européen.
Ah oui, donc lui considère que l'enveloppe était due de toute façon et que peu importe donc ce qu'on en faisait, sauf que dans certains cas, Élodie, on peut se demander si les assistants parlementaires travaillaient vraiment à temps plein.
Oui, parce qu'il y a d'anciens élus FN qui sont assez mal à l'aise hein, lorsqu'on leur demande d'évoquer le travail réalisé à l'époque par leurs assistants, comme Jean-Claude Martinez, député européen pendant 20 ans. Il avait déjà une collaboratrice en circonscription, mais il soutient que le FN lui aurait demandé d'embaucher une autre assistante à temps plein. Cette femme, Huguette Fatna, a été payée pendant 17 ans sur l'enveloppe du député Martinez.
Et c'est qui, Huguette Fatna ?
Alors, c'est une élue, conseillère régionale d'Île-de-France. C'est une amie intime de Marine Le Pen. Elle est d'ailleurs la marraine d'une de ses filles. Elle a longtemps été la responsable de l'outre-mer au FN, comme en témoigne cette vidéo que nous avons retrouvée, vidéo tournée par le parti en 2007.
L'invité de la semaine avec nous, comme promis, Huguette Fatna, membre du bureau politique, secrétaire général du Front National dans les Dom-Tom. Bonjour.
Bonjour. Mon cher Julien, vous faites une erreur là.
Oui.
Moi, je ne suis que secrétaire national au Dom-Tom.
Bien sûr, Huguette.
À dire au pareil.
Elle n'est que secrétaire nationale au Dom-Tom à l'Outre-mer, donc. Hein. Après, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas aussi travaillé pour l'Europe, Élodie. On peut faire les deux, non ?
Oui, alors écoutez à ce sujet Jean-Claude Martinez, l'ex-député européen qui officiellement l'employait. Lui affirme qu'elle l'a effectivement aidé sur des sujets agricoles qui concernaient les Antilles.
Alors, Huguette établissait les contacts avec la Martinique, elle m'a accompagné en Martinique, elle organisait la soirée des Martiniquais.
Oui, mais est-ce qu'elle faisait du travail parlementaire ?
Quand Huguette, sur le dossier banane, par le simple fait qu'elle est martiniquaise, prend contact avec les planteurs de banane, elle est dans le dossier qu'on traite.
Mais est-ce que c'est pour ça que vous l'avez embauchée comme assistante ?
Non, j'ai pas embauché parce qu'à un moment donné, il fallait que Huguette. Voilà.
Vous la payez pour quoi ?
Personne, pour la banane.
Ouais, un peu embarrassé, Jean-Claude Martinez. Donc lui explique qu'elle le conseillait sur la banane antillaise.
Oui, un sujet qui intéresse l'Europe. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que ça justifie les quelques 30 000 heures de travail que cette collaboratrice est censée avoir consacrées au Parlement ?
Et elle répond quoi ? à ça, Huguette Fatna?
Eh bien, on est allé l'interroger au siège du Rassemblement National à Nanterre. Elle assure qu'elle était parfaitement légitime comme assistante de Jean-Claude Martinez et que son travail n'était absolument pas fictif.
En tant que Antillaise, outre-mer, et qu'il s'intéressait beaucoup à la banane et tout ce qui était outre-mer, donc c'est pour ça qu'il m'avait pris comme assistante locale.
Donc pendant plus de 10 ans, c'est ça?
Ben oui, jusqu'à ce qu'il termine son mandat, j'ai pas compté. Mais j'ai le contrat de travail que je peux vous montrer. Attendez, ne quittez pas parce que je l'ai sorti. Voilà.
Certificat de travail. Hein.
Voilà.
Employé du 1er juillet 92 oui. au 31 juillet 2009.
Oui, voilà. D'accord. C'est bien ça.
Il dit que vous n'avez jamais fait un travail à 100% d'assistante locale.
Mais attendez, je ne faisais que ce que M. Martinez me demandait de faire. Si M. Martinez voulait que j'en fasse plus, c'est à lui de me demander. Qu'est-ce qu'il pensait, M. Martinez ? Que je dansais la biguine le reste du temps au bureau ?
Et je précise, Jacques, hein, qu'Huguette Fatna n'est pas inquiétée dans cette affaire par la justice.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu que l'Europe et le Front National, c'est une vieille histoire et qu'on a vu pourquoi Jean-Marie Le Pen a été mis en examen notamment, eh bien voyons comment les choses se sont passées ensuite, c'est-à-dire lorsque sa fille Marine a pris le relais, Elodie Guéguin.
Eh bien, les enquêteurs pensent que tout cela a continué lorsqu'elle est devenue présidente du FN en 2011. Ils le déduisent en tout cas à la lecture d'une note rédigée pour Marine Le Pen en 2012. Le trésorier du FN, Valeron de Saint-Just, s'inquiète alors de l'état des finances du parti. Ce courrier, nous l'avons fait lire.
Ma chère Marine, en 2013, les dépenses ont été mensuellement de 100 000 euros plus élevées que prévu. Ces dépenses ont donc tendance à déraper. Nous ne nous en sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen et si nous obtenons des reversements supplémentaires.
Et dans une autre note destinée à Marine Le Pen, le trésorier écrit également ceci.
De bons résultats aux élections européennes et aux élections régionales donneraient environ 1 million d'euros de disponibles supplémentaires par an.
Ah oui, donc il voit l'Europe comme une manne financière. Alors là, on est en 2012, et ensuite ?
Eh bien ensuite, le FN arrive largement en tête aux européennes de 2014, et il passe de 3 à 24 eurodéputés. Quelques jours plus tard, une réunion se serait tenue à Bruxelles, au cours de laquelle Marine Le Pen aurait tenu des propos qui intéressent grandement les enquêteurs.
Et des propos de quelle nature ?
Alors là encore, il faut rester prudent, Jacques, mais d'anciens députés ont raconté à la police ce qui se serait passé lors de cette réunion. Et un ancien assistant européen du FN nous en a également parlé. Nous avons fait lire son témoignage. Il nous raconte ce qu'aurait dit, selon lui, Marine Le Pen.
J'étais présent dans la salle. Elle donnait des directives aux nouveaux parlementaires. Puis, elle a demandé aux collaborateurs de quitter la pièce. La suite de la réunion avec les députés devait se tenir à huis clos. J'ai vu certains députés sortir de la salle assez surpris. D'après ce qui m'a été rapporté, Marine Le Pen venait de leur dire « Avec votre enveloppe budgétaire, vous prenez un seul collaborateur, les autres assistants, c'était pour le FN. »
Pour le FN, donc pour le parti. Et cette réunion, elle aurait débouché sur quoi finalement ?
Eh bien, selon nos informations, seuls 2 eurodéputés auraient refusé les conditions qui auraient été posées par Marine Le Pen ce jour-là. L'un d'eux, Jean-Luc Schaffhauser, s'en est expliqué dans un mail que nous avons pu consulter. Un courriel envoyé le 22 juin 2014 au trésorier du FN et qui dit ceci.
Ce que Marine nous demande équivaut qu'on signe pour des emplois fictifs. Et c'est le député qui est responsable pénalement sur ses deniers, même si c'est le parti qui est bénéficiaire. Je comprends les raisons de Marine, mais on va se faire allumer, car on regardera, c'est sûr, nos utilisations à la loupe avec un groupe si important.
Ouais, donc cette eurodéputée s'inquiète. Et Marine Le Pen, elle en dit quoi?
Eh bien, je lui ai envoyé des questions et je lui ai proposé de s'exprimer, mais elle n'a pas donné suite.
Donc on n'entendra pas sa version. Maintenant, Élodie, ces assistants européens qu'on soupçonne de ne pas avoir travaillé exclusivement pour l'Europe, ils faisaient quoi?
Alors on a vu, hein, certains travaillaient au parti, mais les enquêteurs se demandent aussi si des fonds européens n'ont pas servi à rémunérer des personnes qui étaient affectées à la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2012.
Et qu'est-ce qui leur permet de penser ça?
Eh bien, il y a notamment le témoignage de Gaël Nofri. Il a été recruté sur la campagne présidentielle de 2012 comme conseiller de Marine Le Pen, notamment sur des questions relatives aux services publics. Sauf qu'à sa grande surprise, en pleine campagne, on lui aurait demandé de signer un contrat d'assistant parlementaire européen auprès de Jean-Marie Le Pen. C'est ce qu'il affirme sur un procès-verbal que nous avons fait lire.
C'est la campagne de Marine Le Pen qui a bénéficié de ma force de travail. J'ai été rémunéré par des fonds européens alors que je travaillais comme conseiller sur la campagne présidentielle de Marine Le Pen.
Ouais, donc il travaillait sur la présidentielle tout en étant officiellement rattaché à l'eurodéputé Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen, lui, il le confirme ça?
Non, il a refusé d'être interviewé sur ce dossier des assistants européens. Mais devant les juges, le 12 septembre, il a donné sa version des faits. Nous avons fait lire sa déclaration.
En principe, M. Nofri travaillait pour moi. Il est possible qu'il ait travaillé pour la campagne électorale de Mme Le Pen, après les heures de bureau.
Après les heures de bureau, autrement dit, en dehors de son temps de travail, hein, c'est ce qu'on entend.
France Inter, secret d'info.
Alors maintenant qu'on a bien compris en quoi consiste ce système que la justice pense avoir mis au jour, bah regardons de plus près qui ont embauché au FN comme assistant parlementaire européen, Élodie Guéguin.
Alors il y a une particularité au FN, Jacques, c'est que la politique c'est une histoire de famille. Ainsi Marine Le Pen a embauché comme assistant celui qui l'a accompagné pendant plusieurs années, Louis Alliot, mais il y a aussi des membres de la famille Le Pen qui ont eu des contrats de collaborateurs européens.
Et par exemple?
Eh bien, par exemple, Yann Maréchal Le Pen, sœur de Marine et mère de Marion Maréchal, depuis très longtemps, elle organise les grands événements du FN, les congrès, les universités d'été. Mais dans le même temps, on s'est aperçu qu'elle avait été salariée comme assistante européenne de Bruno Gollnisch. Elle a donc aussi été mise en examen par les juges, car ils estiment que ses activités au FN ne lui permettaient pas de travailler à temps plein pour son eurodéputé.
Et elle, elle en dit quoi?
Eh bien, elle explique que, de fait, son employeur eurodéputé profitait des manifestations qu'elle organisait pour le parti. C'est sa ligne de défense. Écoutez cet échange que nous avons fait lire entre Yann Maréchal Le Pen et la juge d'instruction lors d'une audition le 12 mars dernier.
Je ne me suis jamais rendue au Parlement européen. Je n'ai jamais travaillé sur un dossier politique européen. Je n'en ai pas les compétences et ça ne m'a jamais été demandé.
Pourquoi ne pas être resté employé du FN?
Je ne sais pas.
Bruno Gollnisch n'a pas pu citer un seul événement organisé pour lui par vos soins en tant qu'attaché parlementaire. Qu'en pensez-vous?
Oui, je n'ai pas organisé d'événement en particulier pour Bruno Gollnisch. Ce n'était pas mon travail.
Alors l'enquête laisse aussi penser que Yann Maréchal Le Pen a bien failli être embauchée comme assistante sur le budget d'eurodéputé de sa sœur Marine Le Pen.
Et pourquoi vous dites failli? Parce qu'elle ne l'a pas été?
Non, Marine Le Pen ne l'a pas embauchée comme assistante européenne. En revanche, elle semble être intervenue pour que sa sœur perçoive des primes exceptionnelles du Parlement européen.
Et on le sait comment ça?
Eh bien les juges disposent d'échanges de messages. Écoutez par exemple ce que Marine Le Pen demande par SMS en janvier 2014 à l'assistant du groupe FN à Bruxelles.
Pensez à la prime pour Yann.
Ok, je vois ça avec toi demain.
Et dans la foulée, cet assistant à Bruxelles envoie un SMS à une comptable qui travaille pour le FN.
As-tu reçu mon mail pour le calcul de la prime de 1500 euros net pour Yann? Marine m'a demandé d'insister.
Oui, finalement, cette prime a bien été versée. Alors maintenant, il y a autre chose qu'on peut remarquer au Rassemblement National, Élodie, c'est le niveau assez élevé des salaires qui sont versés à certains cadres.
Oui, certains sont très élevés pour un parti qui rencontre par ailleurs d'importantes difficultés financières. Il n'est pas rare de voir des salaires à 6, 7, 8, 9 000 euros par mois. Pour l'année 2017, la masse salariale du Rassemblement National a dépassé les 3 millions d'euros.
Oui, mais c'est haut salaire dont vous parlez, Élodie, il concerne des cadres du parti, pas des assistants européens.
Eh bien, détrompez-vous, Jacques, car au FN, certains cadres, certains dirigeants du parti ont aussi eu des contrats d'assistants. Ça peut paraître étonnant, mais Florian Philippot, par exemple, a été assistant européen, de même que Jean-François Jalc, le vice-président du FN.
Ah, et du coup, il y aurait un décalage entre les niveaux des rémunérations de ces personnes et l'état des finances du parti.
Oui, c'est en tout cas l'analyse que fait l'avocat Jean-Christophe Ménard, qui est un ancien de la commission des comptes de campagne. Je tiens à préciser quand même, hein, Jacques, qu'il a travaillé pour La République En Marche, mais pour beaucoup d'autres candidats aussi. Et c'est un expert de la question. Et selon lui, les salaires au RN pèsent beaucoup sur les finances du parti.
Ce qui est surprenant, c'est un tel niveau de rémunération au regard du taux d'endettement du Rassemblement National. Plus de 30 millions d'euros d'endettement, c'est quand même colossal, avec simplement 15 millions d'euros de recettes. Un parti politique, c'est comme n'importe quelle entreprise. Quand vous avez un taux d'endettement très élevé, ça implique une certaine rigueur budgétaire en interne. Et là, apparemment, ce n'est pas le cas.
Ouais, du coup, ce qui peut aussi surprendre dans ce contexte, Élodie, c'est qu'assez récemment, le Front National, Rassemblement National, a augmenté la somme qu'il verse mensuellement à Marine Le Pen.
Oui, alors, disons-le d'emblée, Jacques, hein, c'est légal, mais ce n'est vraiment pas courant au sein des partis. En général, le président est bénévole, mais ici, Marine Le Pen cumule avec les indemnités qu'elle perçoit comme députée, comme conseillère régionale, une allocation qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années. En 2014, elle est de 1000 euros par mois, cette allocation, puis de 3000 euros l'année suivante, et finalement de 5000 euros à partir de juillet 2017.
Et comment elle justifie ça?
Alors Marine Le Pen écrit dans sa déclaration d'intérêt, déposée auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, qu'il s'agit d'une rémunération. Mais à notre micro, le trésorier du parti, Valrande Saint-Just, qui se présente parfois comme un cost-killer, parle lui d'une allocation forfaitaire pour les frais engagés par sa présidente.
Madame Le Pen, évidemment, un nombre de frais importants dans son métier, et c'est tout à fait normal que le Rassemblement National y participe. Et ça correspond exactement à l'activité de Madame Le Pen, qui est absolument considérable. Je peux être un cost-killer et assumer par ailleurs des dépenses absolument indispensables. Et celle-là me paraît être une dépense absolument indispensable.
Alors maintenant, hein, quant à savoir de quelles dépenses il s'agit, Marine Le Pen ne nous a pas répondu.
Bon, et le Rassemblement National, l'ex-Front National, donc, il est toujours en crise financière aujourd'hui?
Eh bien oui, puisque malgré des subventions publiques en hausse, avec de bons résultats aux élections, près de 5 millions d'euros par an, eh bien le parti reste très endetté, et Bernard Monod, un ancien député européen FN qui a été l'artisan des programmes économiques de Marine Le Pen en 2012 et en 2017, eh bien lui estime que le parti va droit dans le mur.
Lorsque j'y étais encore, jusqu'en mi-2018, j'ai alerté depuis plusieurs années sur la situation très tendue des finances du Front, notamment par l'endettement, les déficits des comptes d'exploitation annuels. Il est quand même ennuyeux d'avoir un compte d'exploitation systématiquement déficitaire d'année en année depuis 6 ou 7 ans. Moi-même, j'ai tiré le signal d'alarme auprès du trésorier, voilà, qui n'en a pas tenu compte. Et je crains le pire pour les finances du Front à terme.
Et c'est une des raisons d'ailleurs qu'il avance pour expliquer son départ du Rassemblement National en 2018.
Ce serait donc une double menace qui pèse sur le RN, hein, une menace judiciaire, on l'a vu, mais aussi une menace économique. Merci Élodie Guéguin. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous y laisser vos commentaires, comme chaque semaine. Vous pouvez le faire sur la page Facebook aussi de la cellule Investigation de Radio France, ou encore sur Twitter, Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons voir que les constructeurs automobiles sont devenus dépendants aux SUV, ces fameuses grosses voitures dont les ventes ont explosé ces dernières années.
my hero now. Am I a hero? Am I a hero now? I loved you like a brother. It's on the news again. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero.
Une chanson en faveur des droits des minorités, très référencée années 70. Hein, c'était Hero, extrait du troisième album du chanteur britannique Michael Kiwanuka.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors, nous recevons maintenant Sophie Anfanen, bonjour.
Bonjour.
Pour le site d'information en ligne Les Jours, vous avez réalisé une enquête sur les SUV, les Sport Utility Vehicles. Ce sont des grosses voitures qui dominent le marché automobile, hein, comme la Peugeot 3008, la Renault Kadjar, on en a vu des pubs. Alors, tout le monde s'y est mis, ça représente 40% du marché en France. Et en Europe, vous dites que ces ventes ont été multipliées par 4 en 10 ans. Alors, ça paraît énorme et on a envie de comprendre pourquoi.
D'abord, c'était un segment qui n'existait pas. Enfin, c'est des voitures qui n'existaient pas auparavant. En Europe, on avait le monospace, l'espace, le Scénic, des choses comme ça, très familiales, et le 4x4 qui était segment luxe ou segment sport ou segment vraiment utilitaire montagne. Et il y a une sorte de nouvelle voiture qui s'est inventée, qui traverse tous les segments automobiles. Vous voyez, donc les petites citadines, les berlines de ville, etc. C'est ça les segments. Et on a transformé en fait ces voitures en pseudo 4x4, en les rehaussant, en les faisant grossir, en leur mettant des bouts de plastique par-dessus aussi pour faire sport, en les alourdissant beaucoup. Et on a inventé le Sport Utility Vehicle, qui est une sorte de 4x4 qui n'est pas vraiment 4x4, de gros monospace qui prend plus de place qu'un monospace pour un usage identique. On a inventé cette nouveau
segment. Mais pourquoi ? Donc la question, c'est pourquoi on a inventé ça et pourquoi ça se développe autant ?
On a inventé parce que les constructeurs déjà tout d'abord cherchaient l'après monospace. Le monospace plafonnait, c'était devenu une sorte de voiture un peu de papa, un peu vieillissante, et il fallait passer à autre chose. Et il y avait ce 4x4 qui commençait à marcher. C'est Nissan qui a commencé à faire un 4x4 un peu urbain, avec le Qashqai, qui a marché à la surprise générale, une sorte de gros crapaud sur roue comme ça, qui a cartonné. Et tout le monde s'est engouffré sur ces grosses lignes très très agressives, etc. Et en fait, c'est rentré en phase avec un besoin de protection des automobilistes. Et en fait, ces voitures, c'est le phénomène cage à requin. On se met dans cette voiture pour se protéger du monde. Et du coup, c'est la surenchère par derrière avec des véhicules de plus en plus massifs, de plus en plus protecteurs des gens qui sont à l'intérieur, mais qui du coup peuvent devenir une menace pour les gens qui sont à l'extérieur.
Ouais, sauf que ces véhicules, ils ont quand même un gros défaut. C'est qu'ils consomment 10% de plus qu'une berline classique. Donc c'est quelque part une aberration écologique au moment où justement on veut réduire la pollution automobile.
Oui, c'est le point de départ de mon enquête. Hein. Je voyais ces véhicules circuler dans les villes, où c'est un non-sens complètement, mais aussi dans les campagnes. Et je me disais, mais pourquoi, etc. Et surtout, pourquoi dans un moment où on a quand même besoin de sobriété énergétique, et donc on pourrait s'attendre à ce que les véhicules soient petits, consomment peu, etc. En fait, c'est l'inverse qui se passe, parce qu'il y a ce besoin de protection, et parce que en fait, la question écologique est complètement secondaire dans la décision d'acheter un véhicule. Du coup, on se retrouve avec des voitures qui, effectivement, sont, d'après l'Agence internationale pour l'énergie, quand même la deuxième source d'augmentation des émissions de CO2 dans le monde depuis 2010. Et l'ensemble des institutions internationales, en France, le Haut Conseil pour le Climat, tout le monde dit la même chose. C'est-à-dire que ces véhicules sont en train de compliquer la quête vers des déplacements sobres. Et c'est un contresens absolument total.
Contresens qui est encouragé par les constructeurs, parce que vous citez ce chiffre de 3 milliards d'euros dépensés en communication pour ces SUV en France.
Oui, parce que c'est des véhicules extrêmement rentables. En fait, le SUV sont pour la plupart basés sur la plateforme, donc le châssis, de la berline équivalente. Donc on a des berlines qui sont des voitures normales, qui consomment normalement, etc. Et en fait, on les rehausse, on les fait grossir et on les vend 20 000 euros plus cher. Donc c'est extrêmement rentable. Les constructeurs dégagent des marges beaucoup plus importantes avec les SUV. Parce qu'en plus, comme il y a une mode, comme il y a un effet design, un effet marketing, etc., les gens ont envie de les acheter. C'est les voitures qui font envie. Et donc, on met beaucoup d'argent dans la publicité, on dégage des grosses marges et on envahit les routes avec ces véhicules problématiques.
Et le souci, c'est que ces voitures, vous le dites, c'est une bombe à retardement quelque part. C'est-à-dire que demain, ce sont des gens qui les achèteront d'occasion et qui vont se retrouver piégés parce qu'ils devront consommer beaucoup, donc dépenser beaucoup pour l'essence, etc.
Oui, le cycle de vie d'une voiture, c'est à peu près 20 ans. Il y a 2, 3, 4 mains. Et du coup, aujourd'hui, ces voitures, elles roulent, elles sont neuves, etc. Mais elles vont se retrouver dans les campagnes ou chez des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui vont les acheter d'occasion.
Parce qu'il n'y aura plus que ça.
Il n'y aura plus que ça, en fait. Le marché est à 40% en France, mais bientôt 50, 60% de SUV en France. Donc dans 10 ans, sur l'occasion, il n'y aura plus que ça. Et c'est des véhicules qui consomment plus, qui vont se prendre des malus, parce que dans 10 ans, on va dire, mais en fait, on n'en veut pas de ces voitures, c'est un vrai problème. Donc elles vont se prendre des malus. Et les gens qui les ont achetées, tout simplement, parce qu'il n'y avait plus que ça en occasion, ils vont en souffrir. Et l'effet gilet jaune actuel de véhicules qui ont déjà 15-20 ans et qui polluent, etc., on va le retrouver dans 15-20 ans, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'action de l'État pour se dire, oh là, attention, on est dans quelque chose, on est en train d'enfermer le parc automobile dans quelque chose qui n'est pas sain. Et en fait, d'ailleurs, ce qui est le plus impressionnant dans mon enquête, je m'y attendais pas, c'est qu'en fait, il n'y a personne pour défendre le SUV. Même chez les constructeurs, il n'y a pas grand monde pour le défendre. En fait, dès qu'on se pose un petit peu 5 minutes avec quelqu'un en disant, mais il n'y a pas un problème comme avec les SUV, c'est pas un gros problème. Et oui, c'est un gros problème. Et d'ailleurs, les constructeurs eux-mêmes sont devenus SUV dépendants et ça leur pose énormément de soucis pour l'avenir.
Les constructeurs qui se trouvent aussi devant un mur, parce qu'il y a quand même des échéances. 1er janvier 2020, les émissions ne devront plus dépasser 80 grammes de CO2 par kilomètre, avec une amende de 95 euros par gramme dépassé. Donc ça va les handicaper, ces véhicules.
Oui, en fait, c'est ça le paradoxe, c'est que Peugeot, par exemple, PSA, est extrêmement SUV dépendant. Et la seule façon d'atteindre les objectifs, c'est des objectifs européens pour 2021, ensuite il y a d'autres objectifs encore plus durs pour 2030. Et en fait, la seule façon pour PSA, c'est de produire finalement encore plus de SUV, mais hybrides, qui vont réduire la moyenne des émissions de CO2, mais on aura encore plus de voitures grosses, et d'enlever les petits véhicules qui se vendent moins et qui se vendent moins cher. Donc on a une sorte de fuite en avant parce que PSA s'expose à une amende qui peut atteindre plusieurs centaines de millions d'euros. Et il y a plusieurs autres constructeurs comme ça qui s'exposent à des grosses amendes parce que elles se sont mises un peu seules dans le piège du SUV parce que c'est une voiture extrêmement rentable et aussi parce qu'elles ont subi le contre-coup du Dieselgate. C'est-à-dire que les mêmes SUV roulant au diesel seraient rentrés dans les clous des objectifs pour 2021. Mais comme tout le monde a abandonné le diesel à partir de 2015, ces véhicules roulent à l'essence majoritairement aujourd'hui, et l'essence émet beaucoup plus de CO2 que le diesel.
Alors, quid du projet de la mairie de Paris de faire payer le stationnement plus cher aux SUV, justement, aux grosses voitures ?
la mairie de Paris a identifié un problème. Les rues de Paris, comme de plein d'autres villes, sont pas gigantesques. À partir du moment où on a des véhicules qui grossissent et qui, en plus, n'arrivent plus à se garer.
Et qui polluent plus, de fait, puisqu'ils consomment plus.
Exactement. Et qui n'arrivent pas à se garer sur les 1m80 de large d'une place de stationnement normale. Et qui, dans les parkings souterrains, prennent deux places aussi. Donc, on a une vraie problématique. Donc, la mairie de Paris réfléchit à ça. Donc, elle cherche comme ça au poids, à la taille.
Mais c'est juste une idée ou c'est un projet qui avance et qui pourrait se concrétiser rapidement?
On sent que c'est un projet qui avance quand même. Et qui pourrait se concrétiser, alors clairement pas avant les municipales, probablement s'il y a un deuxième mandat de Anne Hidalgo dans le deuxième mandat. Paris n'est pas seul, Bruxelles, la région de Bruxelles pense aussi à un système équivalent, et la municipalité de Montréal aussi a commencé à parler d'une pénalisation des gros véhicules, notamment dans le centre-ville de Montréal, parce qu'ils ont en fait le même problème. En fait, toutes les villes dans le monde entier sont confrontées à la même problématique.
Bien, à suivre donc. Merci Sophie Anfanen pour toutes ces explications, et pour ceux qui voudraient lire votre enquête en intégralité, bien je rappelle qu'on peut la trouver donc sur le site des jours, et je précise tout de même que c'est un site payant. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert, avec une programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. Et à la technique, il y avait Louis Audebert et Ronan Mahé. Dans quelques instants, Emmanuel Kérad et sa librairie francophone. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.